pour la pierre apportée à l'œuvre lointaine et mystérieuse, et la seule paix possible sur cette terre, et dans la joie de cet effort accompli. Une heure encore venait de passer. La nuit entière s'était écoulée à cette terrible leçon de vie, sans que ni Pascal ni Clotilde eussent conscience du lieu où ils étaient, ni du temps qui fuyait. Et lui, surmené depuis quelques semaines, ravagé déjà par son existence de soupçons et de chagrins, eut un frisson nerveux, comme dans un brusque réveil. « Voyons, tu sais tout. Te sens-tu le cœur fort, trempé par le vrai, plein de pardon et d'espoir? Es-tu avec moi ?» Mais, sous l'effrayant choc moral qu'elle avait reçu, elle-même frémissait, sans pouvoir se reprendre. C'était en elle une telle débâcle des croyances anciennes, une évolution telle vers un monde nouveau, qu'elle n'osait s'interroger et conclure. Elle se sentait désormais saisie, emportée dans la toute-puissance de la vérité. Elle la subissait et n'était pas convaincue. « Maître !» balbutia-t-elle. « Maître !» Et ils restèrent un instant face à face à se regarder. Le jour naissait, une aube d'une pureté délicieuse, au fond du grand ciel clair, lavé par l'orage. Aucun nuage n'entachait plus le pâle azur teinté de rose. Tout le gai réveil de la campagne mouillée entrait par la fenêtre, tandis que les bougies, qui achevaient de se consumer, pâlissaient dans la clarté croissante. « Réponds, veux-tu encore tout détruire, tout brûler ici? Es-tu avec moi, entièrement avec moi ?» À ce moment, il crut qu'elle allait se jeter à son cou en pleurant. Un élan soudain semblait la pousser, mais ils se virent dans leur demi-nudité. Elle, qui jusque-là ne s'était pas aperçue, eut conscience qu'elle était en simple jupon, les bras nus, les épaules nues, à peine couvertes par les mèches folles de ses cheveux dénoués. Et là, près de l'aisselle gauche, quand elle abaissa les regards, elle retrouva les quelques gouttes de sang, la meurtrissure qu'il lui avait faite en luttant pour la dompter dans une étreinte brutale. Ce fut alors, en elle, une confusion extraordinaire, une certitude qu'elle allait être vaincue. Comme si, par cette étreinte, il était devenu son maître, en tout et à jamais. La sensation s'en prolongeait. Elle était envahie, entraînée au-delà de son vouloir, prise de l'irrésistible besoin de se donner. Brusquement, Clotilde se redressa, voulant réfléchir. Elle avait serré ses bras nus sur sa gorge nue. Tout le sang de ses veines était monté à sa peau en un flot de pudeur empourprée. Et elle se mit à fuir dans le divin élancement de sa taille mince. « Maître, maître, laisse-moi, je verrai. » D'une légèreté de vierge inquiète, elle s'était, comme autrefois déjà, réfugiée au fond de sa chambre. Il l'entendit fermer vivement la porte à double tour. Il restait seul. Il se demanda, pris tout à coup d'un découragement et d'une tristesse immense, s'il avait eu raison de tout dire. Si la vérité germerait dans cette chère créature adorée et y grandirait un jour en une moisson de bonheur. Chapitre 6. Des jours s'écoulèrent. Octobre fut d'abord splendide, un automne ardent, une chaude passion d'été dans une maturité large, sans un nuage au ciel. Puis, le temps se gâta. Des vents terribles soufflèrent, un dernier orage ravina les pentes. Et, dans la maison morne, à la souleillade, l'approche de l'hiver semblait avoir mis une infinie tristesse. C'était un enfer nouveau. Entre Pascal et Clotilde, il n'y avait plus de querelles vives. Les portes ne battaient plus, des éclats de voix ne forçaient plus Martine à monter toutes les heures. à peine se parlaient-ils maintenant. Et pas un mot n'avait été prononcé sur la scène de la nuit. Lui, par un scrupule inexpliqué, une pudeur singulière dont il ne se rendait pas compte, ne voulait pas reprendre l'entretien, exiger la réponse attendue, une parole de foi en lui et de soumission. Elle, après le grand choc moral qui la transformait toute, réfléchissait encore, hésitait, luttait, écartant la solution pour ne pas se donner dans son instinctive révolte. Et le malentendu s'aggravait au milieu du grand silence désolé de la misérable maison où il n'y avait plus de bonheur. Ce fut, pour Pascal, une des époques où il souffrit affreusement, sans se plaindre. Cette paix apparente ne le rassurait pas, au contraire. Il était tombé à une lourde méfiance, s'imaginant que les guet-apens continuaient et que, si l'on avait l'air de le laisser tranquille, c'était afin de tramer dans l'ombre les plus noirs complots. Ses inquiétudes avaient même grandi. Il s'attendait chaque jour à une catastrophe, ses papiers engloutis au fond d'un brusque abîme qui se creuserait, toute la Soliade rasée, emportée, volant en miettes. La persécution contre sa pensée, contre sa vie morale et intellectuelle, en se dissimulant ainsi, devenait énervante, intolérable, à ce point qu'il se couchait le soir avec la fièvre. Souvent, il tressaillait, se retournait vivement, croyant qu'il allait surprendre l'ennemi derrière son dos, à l'œuvre pour quelque traîtrise. Et il n'y avait personne, rien que son propre frisson dans l'ombre. D'autres fois, pris d'un soupçon, il restait aux aguets pendant des heures, caché derrière ses persiennes ou encore embusqué au fond d'un couloir. Mais pas une âme ne bougeait. Il n'entendait que les violents battements de ses tempes. Il en demeurait éperdu, ne se mettait plus au lit sans avoir visité chaque pièce, ne dormait plus, réveillé au moindre bruit, haletant, prêt à se défendre. Et ce qui augmentait la souffrance de Pascal, c'était cette idée constante, grandissante, que la blessure lui était faite par la seule créature qu'il aimât au monde, cette Clotilde adorée, qu'il regardait croître en beauté et en charme depuis 20 ans, dont la vie jusque-là s'était épanouie comme une floraison, parfumant la sienne.